Merci bien. Mesdames et messieurs, bienvenue pour la deuxième conférence. La dernière fois, j'avais donné une petite introduction à la situation archéologique du tel de Ras Chamra et j'avais spécialement mentionné la maison du grand prêtre avec la trouvaille des tablettes en argile qui contiennent les épopées royales. Permettez-moi de revenir encore une fois sur cette maison, spécialement sur le plan de cette maison, pour montrer deux aspects que je voudrais bien parler, et puis je voudrais bien parler sur l'iconographie divine à Ougarit. D'abord, la maison du grand prêtre, il y a deux choses à expliquer là-dessus. Vous voyez ici la rue du dieu Dagon et ici en bas, la rue de la bibliothèque. Ça, c'est un peu étrange, n'est-ce pas? Parce que on pourrait songer qu'à Ougarit, on avait déjà les noms des rues ou des plaques de rues, mais en vérité, ça n'existait pas. Cela veut dire que ces noms, rue du dieu Dagon, rue de la bibliothèque, ne sont que des plaisanteries des collègues français qui ont fait les fouilles là dans les années 30. On a écrit ça sur le plan, donc on pourrait avoir l'impression que ça existait déjà aux bronzes récents, mais ce n'est pas du tout le cas. Deuxième chose que je voudrais bien expliquer, très brièvement, nous avons ici dans la chambre 1 et ici dans la chambre 7 les soi-disant points topographiques. Point topographique veut dire que l'on a trouvé quelque chose là, spécialement dans notre cas les tablettes en argile. Ce qui est peut-être un peu étonnant, vous avez aussi ici et ici dans la rue et aussi des points topographiques où l'on a trouvé des tablettes en argile. Et on se demande toujours pourquoi, en dehors de la maison. Ça, c'est un peu étrange. Mais nous savons qu'il y avait les pillages de la partie nord de l'Acropole pendant le 19e siècle et aussi pendant la période de la Première Guerre mondiale. Pourquoi ces pillages? Ce n'étaient pas les archéologues qui étaient là. Vous savez que les archéologues ont commencé seulement en 1929. C'était la population locale qui, après quelques pluies en hiver, avait découvert les choses en argent, les choses en or. Donc, on a fait les fouilles, non légitimes en tout cas, pour trouver plus des objets d'or et aussi d'argent. Les tablettes en argile n'avaient aucune valeur pour ces gens-là, c'est clair, on ne savait pas encore lire cette écriture cunéiforme alphabétique, et ça se ne vendait pas non plus. Donc, on a jeté un certain nombre de tablettes en argile ici dans la rue et heureusement, les archéologues les ont découvertes dans les années 1929 et suivantes. Deuxième chose, j'ai aussi mentionné les grandes divinités protagonistes des deux épopées royales d'Ougarit, ce sont le dieu El et le dieu Baal. Nous sommes toujours soumis à la tentation de visualiser les divinités et chacune d'entre nous voudrait bien savoir quelle était l'image du dieu El, du dieu Baal, Anat, Astarte, etc., etc. Mais malheureusement, dans la plupart des cas, il n'y a pas des inscriptions sur ces œuvres, il y a des exceptions, qui pourraient en permettre une identification. Quand même, il y a des cas qui sont bien vraisemblables. Pour ce qui est du dieu El, on peut se référer à une statue de bronze et or, vous la voyez sur l'écran, trouvée dans la ville sud. Son hauteur est d'environ 13 cm. Il s'agit d'un homme assis, enveloppé dans le manteau syrien qui l'identifie comme un roi. Sur sa tête, il porte une couronne Atef. Ici, ça c'est la couronne Atef, un peu à la façon ougaritaine. Au-dessus des oreilles, il y a deux mortaises. Non, ici, ce n'est pas à voir, mais si l'on connaît cette statue, c'est très facilement à découvrir. Au-dessus des oreilles, il y a deux mortaises pour fixer des cornes latérales, c'est-à-dire les signes de son statut divin. Sa main droite, ici, fait le geste de bénédiction, pendant que la gauche, ici, tenait un objet disparu. Le trône de cette divinité est aussi disparu. La datation de cette figurine se fait environ au 14e ou 13e siècle avant Jésus-Christ. Les figurines de ce type sont souvent appelées statues du dieu El, quoique une inscription manque. Mais quand même, une telle identification est bien vraisemblable, spécialement parce qu'il s'agit d'un vieillard installé sur un trône, ce qui correspond très bien à la description du dieu El faite dans les mythes et les épopées d'Ougarit. Pour ce qui est du dieu Baal, une stèle fameuse qui le représente a été trouvée sur l'acropole de la cité d'Ougarit, en contrebas du temple de Baal. Ici s'est dressé un sanctuaire provisoire qui a été érigé après la destruction du temple de Baal dans le grand tremblement de terre vers 1250 avant Jésus-Christ. Ce sanctuaire provisoire remplaçait le temple détruit jusqu'à la fin d'Ougarit, survenu en 1185 avant Jésus-Christ. Aussi a-t-on trouvé des pierres qui sont très probablement les restes d'un autel qui se trouvait devant la stèle du Baal aux foudres. Cette stèle, je pense que chacun, chacune d'entre vous la connaît très bien, parce qu'elle est au Louvre, d'une hauteur d'un mètre 42 centimètres, nous montre deux personnages debout. Au centre, nous avons le grand dieu Baal, le dieu de l'orage, en taille héroïque, tenant dans sa main droite une masse d'armes, ici, ça c'est un peu cassé, et dans la main gauche, ici, une lance, ici clairement à avoir, une lance, avec un symbole végétal à son bout. Totalement encadré et protégé de ce dieu se trouve un autre personnage, ce personnage-ci. Il s'agit d'un roi vêtu d'un manteau à brûler sur une estrade dans un geste de prière ou de salut. Ici, on voit sa main droite élevée en geste de bénédiction ou de salut. Il est important de voir que ce deuxième personnage regarde dans la même direction que le dieu de l'orage, d'où il devient clair qu'il n'est pas en train d'adorer le dieu, comme on a souvent écrit et dit, il n'est pas en train d'adorer le dieu qui se trouve derrière son dos. En outre, ce personnage se trouve debout sur un socle, ici, un socle, et ça c'est la raison qui a amené Dominik Bonatz, archéologue à l'Université de Berlin, à proposer d'interpréter ce deuxième personnage comme la statue d'un roi divinisé qui se dirige en direction des hommes priant à lui. La place de trouvaille de cette stèle n'est pas sa place originale dans le culte du temple de Baal. Olivier Callot a essayé de trouver cette place et selon lui, la stèle était érigée près de l'entrée de la cella du temple. Pour tous ceux et celles qui avaient le droit d'accès, pas pour tout le monde en tout cas, mais pour ceux et celles qui avaient le droit d'accès au temple de Baal, il était possible d'adresser ses prières au dieu Baal via l'intercession des rois divinisés d'Ougarit. Après la destruction du temple, dans le tremblement de terre, vers 1250 avant Jésus-Christ, il était important de redresser cette stèle pour obtenir la bénédiction de Baal et aussi des rois décédés veillant sur le destin de la royauté et de la ville d'Ougarit. Retournons maintenant à l'épopée de Kirta. La semaine dernière, j'ai déjà parlé sur le rêve du roi Kirta, dans lequel le roi recevait des instructions du dieu El comment organiser sa campagne pour obtenir la dame Uria. Kirta effectuait sa campagne vers Udum, un site peut-être situé à l'est du lac de Tibériade. Ici, Kirta dirige un discours au roi Pubalu, cela veut dire au père de la dame Uria. Et Kirta lui disait, je le cite, « Donne-moi la dame Uria, la fleur de ta postérité, ton aîné, dont la grâce est semblable à la grâce de Anat, la beauté semblable à la beauté de Astarte, dont les prunelles sont des gemmes de lapis lazuli, les paupières des coupes d'albâtre. C'est elle qui, dans mon songe, elle m'a donné, dans ma vision, le Père de l'homme. Pour qu'elle enfante une postérité à Kirta, un garçon au serviteur d'elle. » Fin de citation. Après ce discours du roi Kirta, il y a une lacune d'environ 40 lignes dans la première colonne de la deuxième tablette de l'épopée. Cela veut dire que les négociations du roi Kirta avec Pubalu manquent complètement. On a quand même l'impression que Kirta obtient la main de Uriya sans coup férir, ce qui n'est pas étonnant, puisque le dieu El lui-même avait conseillé à Kirta dans son rêve d'incubation de procéder de telle façon. Dans la deuxième colonne de la même tablette, il est Milku nous raconte les noces de Kirta et de Uriya dans le grand moment et la bénédiction du couple royal par le dieu El. Celui-ci, le dieu El, promet à Kirta, et je cite, « La femme que tu prends, ô Kirta, la femme que tu prends dans ta maison, la jeune fille que tu fais entrer dans ta cour, elle enfantera 7 fils pour toi, même 8 pour toi, elle mettra au monde. Elle enfantera Yatsubu, le héros, ça sera le prince héritier, celui qui sucera le lait d'Afiratu, qui têtera le sein de la vierge Anat. » Fin de citation. De ces 7 enfants, seulement 3 sont connus de nom. C'est Yatsubu, le prince héritier, l'aîné, son frère Ilhu, qui se montre une fois, deux fois dans l'épopée, comme nous verrons encore plus tard, et leur sœur cadette de nom Titmanatu. Elle est la plus jeune de tous les enfants du couple royal. Les noms de tous les autres sont tellement abîmés que la restitution est impossible. Comme souvent, les enfants Yatsubu et Titmanatu portent des noms parlants, pourtant le nom de Ilhu reste vague. Il n'y a pas d'interprétation raisonnable pour ce qui est de ce nom Ilhu. Le nom de Yatsubu est dérivé de la racine ouest-sémitique Natsabu, érigé, et il comporte une double allusion. D'une part, il s'agit de l'érection de la dynastie du roi Kirta, qui avait perdu toute sa descendance. Yatsubu est donc la troisième personne du singulier. Il érige. Le prince héritier érige la dynastie. D'autre part, si l'on regarde l'épopée Akatu, la semaine prochaine, on peut considérer aussi l'érection d'une stèle. Le substantif Nitsabu, le monument érigé, est aussi dérivé de ce verbe Natsabu, érigé. Comme je l'avais dit, nous retrouverons ce substantif dans l'épopée d'Akatu. Là, il signifie le monument que le fils héritier doit ériger en commémoration de son père décédé pour lui assurer le culte des morts. Ici, je me permets de faire une petite digression sur cet aspect de l'idéologie royale, le culte des morts royaux à Ugarit. L'élément le plus central de l'idéologie royale du Proche-Orient ancien était la position privilégiée du roi entre le monde des dieux et celui des hommes. À Ugarit, le roi n'était pas considéré un être divin de son vivant. Mais quand même, jouissait-il d'un statut privilégié qui l'élevait au-dessus des hommes. Cette position spéciale du roi se manifeste avant tout dans le culte d'Ugarit, où le roi était le seul officiant. Dans tous les textes rituels, les prêtres ne sont jamais mentionnés. Il y avait un personnel cultuel, en tout cas à Ugarit. On connaît même ceux qui ont chanté durant les services. Mais les prêtres ne sont jamais mentionné, c'est seulement le roi qui mentionnait dans les rituels d'Ugarit. Mais en tout cas, il y avait des prêtres qui ont effectué le culte au nom du roi. Après sa mort, le roi était élevé au rang des dieux. À Ugarit, cette élévation devient visible en plusieurs indices. Les textes akkadiens d'Ugarit attribuent au roi décédé le déterminatif d'Ingir, dieu. Dans les textes de langue ougaritique et en écriture alphabétique cunéiforme, il n'y a pas de déterminatif au sens strict du terme. Mais ne peut-on voir dans la liste KTU 1113 un équivalent à ce déterminatif à travers l'emploi récurrent du mot « ilou », lequel précède chacun des noms de rois décidés. Il faut alors traduire cette séquence d'expressions comme ilu amitamru, ilu nigmepa, ilu nigmadu par le dieu amitamru, le dieu nigmepa ou le dieu nigmadu. Il y a une autre proposition là-dessus. Dennis Pardee de Chicago a proposé d'y voir un état construit. Cela veut dire le dieu de Amitamru, le dieu de Nigmepa, le dieu de Nigmadu. Ça pourrait être le cas, mais du point de vue religieux, je ne pense pas qu'il a raison. Donc je préfère d'y voir ici un déterminatif qui est bien rare dans les inscriptions ouest-sémitiques. Mais l'usage de ces déterminatifs n'est pas le seul indice de la divinisation des rois ougaritains après leur mort dans les textes ougarites. Dans les listes des divinités dont nous disposons, qui sont en vérité des listes d'offrandes, il y a une catégorie des malakouma. Malakouma signifie les rois, c'est le pluriel du substantif malkou. Malkou, en hébreu biblique, c'est melech, le roi. En pluriel, c'est malakouma. Et cette catégorie des malakouma fait figurer les rois décédés au rang des dieux et des d'Ougarit. Pour ce qui est de ce rang précis des malakouma dans l'hiérarchie des divinités d'Ougarit, il est important de voir que ces listes offrent une énumération de 34 ou de 33 divinités, parmi lesquelles les malakouma n'ont que l'avant-dernière position, ce qui indique bien le rang inférieur des malakouma dans cette hiérarchie divine. Mais quand même, leur divinisation est absolument claire. Un autre indice, déjà mentionné, du rang divin des rois décédés s'observe dans le titre Rafi-Uma, les guérisseurs, parce qu'on attribuait une force guérisseuse aux ancêtres en général, mais avant tout aux ancêtres royaux. Mais comment un roi décédé devenait un membre des Rafi-Uma? Cela ne va pas de soi. Nous avons un rituel absolument extraordinaire pour toute la série du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. C'est le rituel KTU 161, trouvé dans un tas de déblais tout près de la maison d'Urtenu. Et ce rituel nous en donne une réponse. Je cite le texte. J'ai renoncé à le montrer sur l'écran parce que je travaille toujours sur ce texte et je lutte toujours avec quelques aspects de ce texte qui n'est pas du tout facile à traduire. Il y a un titre, liste ou rituel du sacrifice de la statue ou pour la statue. Et puis le texte, vous avez été appelé Rafi-Uma de l'au-delà ou guérisseur de l'au-delà. Vous avez été nommé compagnie de Ditanu. Ditanu, un dieu amourite, était le chef du groupe des Rafi-Uma. Et maintenant viennent quatre noms de rois légendaires qui ne figurent pas dans les listes royales d'Ougarit. Et il y a certainement une histoire, une légende derrière ces noms, mais ces légendes n'ont pas été trouvées. Donc, on ne connaît pas ces personnes et on ne sait pas non plus comment vocaliser ces noms. Ce sont peut-être des noms amourites, mais cela aussi n'est pas tellement clair. On dit par exemple Ulkanu ou Ulkenu pour le premier, Ulkanu le Rafiu, cela veut dire le membre du groupe des Rafi-Uma a été appelé, puis vient le deuxième, Tharumanu, le Rafiu a été appelé, puis vient le troisième, Sadanu, Varadanu, un nom double, Sadanu, Varadanu, le Rafiu a été appelé, et puis vient le quatrième, Tharu Alalamanu, le Rafiu, a été appelé. Mais comme j'avais déjà dit, la légende derrière ces noms nous échappe totalement. On a appelé les Rafi-Uma anciens. Alors, ces quatre sont les Rafi-Uma anciens. Et il y a aussi un groupe des Rafi-Uma qui sont moins anciens. Vous êtes appelé Rafi-Uma de l'au-delà. Vous êtes nommé la compagnie de Ditanu. Et maintenant, vient la partie historique de notre rituel. Le roi Amitamru a été appelé, le roi Nigmadu a été appelé. Ce qui manque dans tous les textes de l'Ancien Orient, ce sont les chiffres Nicmadou Ier, Amishtamru II, etc., etc. Donc, nous sommes toujours dans des difficultés, aussi dans les textes hittites, etc., de quel roi il s'agit vraiment. Le roi Nicmadou, qui est appelé ici, appartient déjà au groupe des Rafiuma, donc il est décédé. Et maintenant, il est devenu clair qu'il doit s'agir de Nicmadou III, le bâtisseur du palais d'Ougarit, dans la deuxième moitié du XIVe siècle avant Jésus-Christ. Le roi Amishtamru était son père, qui était décédé avant lui, donc le roi Amishtamru, peut-être le premier qui a été enterré dans ce palais, et le roi Nicmadou, le deuxième, qui a été enterré dans ce palais, le bâtisseur du palais, ont été appelés de l'au-delà. Et maintenant, la ligne prochaine est un peu difficile. Le roi de Nicmadou soit pleuré. Pourquoi le trône de Nicmadou? Ce n'est pas le même Nicmadou que j'avais déjà mentionné, mais maintenant, il s'agit du roi Nicmadou IV, qui est décédé vers 1215-1210 avant Jésus-Christ. Donc, on a appelé le grand groupe de Rafiuma, puis la première figure historique, le roi Amishtamru, deuxième moitié du XIVe siècle avant Jésus-Christ, et son fils Nicmadou, Nicmadou III. Et maintenant vient le roi Nicmadou, qui vient d'être mort, qui est aussi appelé, dont le trône est nommé. Le trône de Nicmadou soit pleuré, et l'escabeau de ses pieds soit pleuré. Devant lui, la table du roi soit pleurée. Que l'on avale les larmes. Misère et misère de misère. Svazardante, Chapchou, c'est la divinité solaire, Chapchou, Svazardante, grand luminaire. Qu'on au Chapchou proclame, et maintenant c'est le discours de la déesse Chapchou, à la suite de ton Seigneur, c'est dit à nous, à la suite de ton Seigneur, de ton trône, à la suite de ton Seigneur, descends en terre. Descends en terre et terre et aussi au-delà, c'est le même mot en ougaritique. À la suite de ton Seigneur, descends en terre. Descends en terre, abaisse-toi dans la poussière, en dessous de Sadanu Varadanu, déjà mentionné, en dessous de Faru Alamanu, les deux représentent les autres deux, déjà évoqués, en dessous des Rafiuma anciens, en dessous du roi Amishtamru Ier du XIVe siècle, en dessous aussi du roi Nicmadou. Et ça, c'est la fin du discours de la déesse solaire. Et maintenant, ça se dirige au prêtre. Le premier jour, faites une offrande. Le deuxième jour, faites une offrande. Le troisième jour, faites une offrande. Le quatrième jour, faites une offrande. Le cinquième jour, faites une offrande. Le sixième jour, faites une offrande. Le septième jour, faites une offrande, consacrez un oiseau de salut. Et puis vient la fin de notre rituel. Salut à Amurapi. Amurapi était le dernier roi sur le trône d'Ougarit jusqu'à la destruction du site en 1125. Salut à Amurapi, et c'était le fils de Nicmadou IV. Et salut à sa maison. Salut à Shareli. Elle était sa grand-mère, qui avait un âge de 90 années à l'époque. Salut à sa maison, salut à Ougarit, salut à ses portes. Ce rituel décrit la descente de l'esprit d'un roi décédé, en ce cas Nicmadou IV, aux enfers. Donc le texte a écrit après la mort de ce roi, survenu en 1215-1210 avant Jésus-Christ. J'avais déjà, la semaine dernière, présenté les colophons des textes mythiques et épiques mis par écrit par Ilimilku. Ces colophons ont montré clairement qu'Ilimilku travaillait au temps de ce Nicmadou IV, ce qui veut dire que le rituel Katiou 1161 et l'œuvre d'Ilimilku sont à peu près contemporains. Il est bien important de noter le fait que dans notre rituel, ou que ce rituel ne mentionne pas du tout l'enterrement du cadavre royal. On a souvent écrit cela. C'est un rituel des funérailles royales, ce qui n'est pas le cas, parce que les mots comme kabaru, enterrer quelqu'un, ou kubru, tombeau, sont totalement absents de notre texte. Il faut donc conclure que l'enterrement du cadavre royal est un acte qui s'est déjà déroulé il y a quelque temps. Et nous n'en savons rien. Il n'y a pas de texte là-dessus. Et aussi, les archéologues n'ont rien trouvé concernant les funérailles royales à Ougarit. Comment peut-on alors reconstruire le déroulement du rituel dont parle KTU 1161? Pour bien comprendre ce déroulement et aussi le but du rituel, on doit prendre au sérieux son titre dans la première ligne, sacrifice pour ou de la statue. Donc, on voit très clairement que nous avons affaire à une statue du roi décédé, ou on peut aussi parler d'une effigie, une statue qui garantissait la présence de l'esprit du roi Nigmadukat, décédé, mais son esprit n'était pas encore entré dans l'au-delà. Donc, il est important de souligner qu'après la mort du roi et après son enterrement, il restait toujours une tâche à accomplir. L'esprit du roi décédé devait encore trouver sa place dans l'au-delà parmi le groupe des Rephaïm, ou des Raphiouman ougaritiques. C'est la raison pour laquelle la première partie de notre rituel contient une invitation à l'adresse des ancêtres divinisés royaux, les Raphiouma, qui sont évoqués. Ils sont appelés à participer à un rituel qui se déroulait dans la cour 2 du palais royal d'Ougarit. Maintenant, je vous montre quelques images sur l'archéologie. Ah, ça c'est la tablette avec le rituel trouvé dans le Tête de Blas, près de la maison d'Ourtenou. Et maintenant, nous avons ici le plan du palais royal d'Ougarit. Bien important pour nous, c'est la cour 2, ici, au nord du palais. Et cette région du palais est aussi appelée la zone funéraire du palais. Alors, il s'agit de la cour 2 et aussi des chambres adjacentes de cette cour. Quelques mots sur la situation archéologique de cette zone funéraire. Nous avons au-dessous de la chambre 28, ici, le caveau funéraire pour l'enterrement des rois décédés, un caveau funéraire qui est bien petit. Il se peut que nous avons aussi à faire des enterrements secondaires ou tertiaires. C'est ce qu'on peut apprendre des fouilles effectuées par Peter Pfälzner dans le palais royal de Katna, où ce cas est bien clair. Alors, nous avons ici, au-dessus de cette chambre, le caveau funéraire, un dromos qui mène, ça c'est l'est, soit de l'est à l'ouest ou de l'ouest à l'est. Puis ici, ce trou, c'est le soi-disant puits funéraire, mais pas un puits pour en tirer de l'eau, c'était un accès à l'au-delà, ou aussi la sortie de l'au-delà, pour les Raphiouma qui étaient évoqués de l'au-delà. Et ici, à l'ouest, et ici, le plan n'est pas très exact, nous avons ici une deuxième chambre qui n'était pas une chambre pour des enterrements, parce qu'elle est trop petite, mais dans la paroi nord, ici, dans cette paroi nord, de cette chambre se trouve un petit trou qui mène à nord, cela veut dire dans la direction du mont Safon, le siège du dieu Baal, le patron de la royauté et du royaume d'Ougarit. Selon le mythe de Baal, ce dieu de l'orage avait été enterré ici, sur le Safon, au nord d'Ougarit, après sa mort subie dans la lutte avec le dieu Motu, et sa résurrection, effectuée par la déesse Anat, était aussi sur le mont Safon. Donc, on peut imaginer qu'il y avait des banquettes avec Baal et les esprits des rois décédés sur le mont Safon. Et comme ça, de cette région, il y avait un accès jusqu'au nord, pas totalement fouillé, ce qui n'est pas possible, un accès dans un tuyau, pourrait-on dire, jusqu'au nord sur le mont de Safon. Retournons à notre rituel, où je peux aussi d'abord montrer quelques images que j'ai faites il y a une vingtaine d'années. Ça, c'est une image du caveau funéraire avec des trous pour y poser des lumières. Le caveau est très petit et il était déjà pillé dans l'Antiquité. Donc, on n'a presque rien trouvé là-dedans. La connaissance archéologique concernant les enterrements des rois d'Ougarit sont rarissimes. Et puis commence le dromos qui mène à l'ouest. Maintenant, une photo prise de l'ouest, d'ici, chambre 28, rez-de-chaussée. Ça, c'est le dromos. Et ici, c'est le caveau funéraire qui va dans cette direction au nord. Ici, vous avez une petite impression du soi-disant puits funéraire, l'accès au monde infernal et aussi la sortie de l'au-delà. Et ici commence la deuxième chambre avec le tuyau qui a mené dans la région nord, cela veut dire au Safon. Et une dernière photo, vous voyez ici quelques trous dans ce seuil. C'est mieux à voir ici, les trous dans le seuil qui reste, j'espère qu'il est toujours là, à ciel ouvert. C'était des trous de libation pour donner des libations aux images des rois décédés qui, dans les images, étaient peut-être dans la salle ou dans la chambre 28 de la zone funéraire du palais. Retournons maintenant à notre rituel, KTU 1-161. Avec Arnold van Gennep, nous avons ici un bel exemple des rites de passage. D'abord, l'esprit du roi décédé est séparé du monde des vivants. Il doit quitter son trône, sa table, son escabeau. Et ensuite, il doit être reçu au milieu du groupe des Rafi'uma. Ça, c'est selon van Gennep, un rite d'agrégation. Pour parachever l'efficience du rituel, on invitait les Rafi'uma à un festin au palais royal et aussi la déesse solaire Chapchou qui exerçait la fonction d'un psychopompe. Ensuite, le roi décédé, dans notre cas, le roi Nigmadukat, en vérité sa statue, devait quitter son trône et descendre aux enfers. Je reviens encore sur notre plan de la cour 2. Et des chambres adjacentes, on peut imaginer, ce n'est pas écrit dans ce rituel parce que tout le monde, la maison royale et les prêtres le savaient, on peut imaginer que le trône avec l'effigie du roi décédé, son escabeau et sa table étaient érigés ici. Puis on a pris sa statue, son effigie, l'a portée via 39 dans la chambre 28. Et ici, on a célébré la venue ou la réception par le groupe des Rafi'uma et puis l'entrée à l'au-delà. Ensuite, les prêtres présentaient des offrandes pendant 7 jours. Le lieu de la présentation de ces offrandes n'est pas indiqué dans notre rituel. On pourrait songer soit au sanctuaire royal, au nord-est du palais royal, ça c'est ici, pas très bien à voir, mais ça c'est ici, le sanctuaire royal, ou bien à un des deux temples sur l'acropole d'Ougarit. De ces offrandes résultait le chalmou, le salut du nouveau roi sur le trône d'Ougarit. Le roi est mort, vive le roi, ça c'est la chose des deux corps du roi, déjà mentionné la dernière fois. De ces offrandes résultait le salut du nouveau roi sur le trône d'Ougarit et de sa maison, aussi le salut de la reine-mère et aussi le salut de la ville d'Ougarit. Le rituel entier se déroulait avec les statues des Rafi'uma, eux aussi présents dans les statues ou statuettes, on ne le sait pas exactement. Et cette statue du roi Nigmadukat, dont la présence est supposée pour le fonctionnement de notre rituel, n'a pas été conservée. Nous n'en connaissons pas son destin. Il se peut qu'elle ait été produite de matériaux périssables comme le bois, la cire et les étoffes, comme c'était le cas des statues funéraires des rois hittites sur lesquelles nous sommes bien informés. Pour ce qui est des offrandes pour l'esprit d'un roi décédé, on peut aussi citer le programme iconographique du bien fameux sarcophage du roi Ahirom de Byblos au Liban. J'ai une image ici. Maintenant, ce sarcophage se trouve au Musée national de Beyrouth, au Liban. Ce sarcophage date dans le 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc, il est contemporain des rites décrits dans notre rituel KTU 1161. L'iconographie du sarcophage nous montre la statue du roi, ici, sur un trône de chérubin, avec un escabeau. Et ici, il y a la table du roi avec les offrandes données à l'esprit du roi décédé. Donc, c'est tout à fait la même chose qui est aussi donné dans notre rituel à Ugarit. Quand même, aussi à Ugarit, ici encore un dessin qui est peut-être un peu plus clairement à voir, le roi décédé avec une fleur dans sa main gauche. Il reçoit des offrandes ici sur la table et ici, il a une coupe dans sa main pour recevoir aussi des libations. Mais aussi à Ugarit, nous avons quelques impressions. Non, je dois retourner à la statue de Dieu Baal. Ici. Nous avons quand même quelques impressions des images des rois divinisés. Deux exemples. Le premier exemple, cette stèle du Baal aux foudres avec l'image d'un roi décédé et divinisé. Le roi, ou mieux sa statue, se trouve debout sur un socle comme une statue divine. Le relief montre donc un roi qui appartient à la sphère divine. Il s'agit d'un ancêtre de la dynastie royale d'Ugarit qui se dirige vers les priants qui demandent son intercession auprès du dieu Baal. Comme la stèle est anépigraphe, il ne s'agit pas d'un roi spécifique, on ne peut pas donner un nom à cette statue, soit Nigmadu, soit Amishtamru, mais il s'agit plutôt du roi divinisé par excellence. Ce roi anonyme est un membre du groupe des Malakuma ou des Rafiuma qui figure dans les listes divines d'Ugarit et aussi dans les rituels déjà mentionnés, ou aussi un membre du groupe des autres. Il y a encore une autre terminologie pour les rats décédés, et ça se peut que l'on a aussi donné un autre nom à ces rois décédés. Un deuxième exemple aussi d'Ugarit, que je n'avais pas encore montré, ça c'est la statue en calcaire. Au cours des fouilles effectuées dans le sanctuaire au Riton, les archéologues ont trouvé une statuette en calcaire d'un personnage assis qui, en raison de la tiare, ici, et du manteau avec un bourrelet, c'est le manteau caractéristique, le manteau syrien, pour les rois et aussi pour les divinités, représentant un roi, ça c'est clair. Depuis sa publication, on avait appelé cette image la statue du dieu El. Mais cette interprétation me semble un peu hâtive parce que le signe iconographique distinctif pour le statut de dieu dans cette statuette, la couronne à cornes ou les trous, tout au moins pour insérer les cornes, manque. Donc il n'y a pas des mortaises ici ou de l'autre côté. Et aussi sur la tiare, il n'y a plus les traces des cornes. Donc, selon moi, il s'agit d'un roi divinisé, mais d'un rang inférieur des divinités et pas du grand dieu El d'Ugarit. Ici, je termine ma digression et je rentre à l'épopée de Kirta. On avait parlé sur la signification du nom du prince héritier Yatsubu, celui qui érige une dynastie, et celui qui érige une stèle. Ces deux aspects ne s'excluent pas mutuellement. Donc, Yatsubu est celui qui érige une dynastie et qui érige le monument pour son père décédé. Tout cela veut dire, comme nous verrons la semaine prochaine, que Yatsubu est le fils idéal. Mais, dans la suite de l'épopée, on verra aussi comment ce nom du fils aîné du roi Kirta fait illusion, car suite à sa révolte contre son père, quand même le roi légitime. Yatsubu sera maudit par son père et par conséquent, il est dorénavant inapte à lui succéder sur le trône du royaume de Bit-Rubur. Pour autant, Yatsubu est le fils héritier et en tant que tel, il a la prérogative d'être nourri par les grandes déesses d'Ugarit, par Afiratu, l'épouse du dieu El, et la mère de toutes les divinités d'Ugarit, sauf Baal, et par Anat, la grande déesse de l'amour, de la guerre et de la chasse. J'avais déjà cité ce texte. Ainsi se montre la position privilégiée du prince héritier. Et j'ai aussi, vous le connaîtrez certainement, une impression iconographique. Ça, c'est le grand panneau en ivoire du palais royal d'Ugarit qui nous donne une impression iconographique de cette position privilégiée du prince héritier ou des princes parce que ces princes sont allaités par une déesse dont nous ne connaissons pas le nom. Maintenant, ce panneau de lys se trouve ou se trouvait au Musée national de Damas. J'espère qu'il soit toujours là, mais je ne suis pas sûr. Ici, ça se voit un peu mieux. Nous avons une déesse avec des ailes. Le statut divin de cette dame est bien clair à cause des cornes. Et il y a ici deux jeunes qui sont allaités par cette déesse. Les ailes de cette figure divine renvoient peut-être à la déesse Anat, qui est mentionnée dans ce contexte ensemble avec la déesse Afiratu. Le deuxième nom connu des enfants de Kirta est celui de la fille Titmanatu. Il est un peu délicat de deviner la signification de son nom, mais souvent on songe au numéro 8. En ougaritique, c'est Thamanu dans la forme masculine et Thamanitu dans la forme féminine. Donc, on songe souvent à une allusion au numéro 8 et on traduit le nom de Titmanatu comme la huitième, où André Caco et Maurice Nessé l'ont rendu par Octavie. Octavia en latin, la huitième, Octavie. Quand même, il reste encore des problèmes parce qu'elle promet à Kirta 8 fils et 6 jeunes filles, ce qui fait 14. Et selon les textes, Titmanatu, Octavie, devrait être la dernière. Donc, il y a un problème, mais il y a aussi de grandes lacunes dans ces textes dont nous avons toujours le problème d'identifier correctement son nom. De cette jeune fille, Titmanatu, le dieu El a dit dans la dernière phrase de sa bénédiction lors des noces du roi Kirta, « De la plus jeune d'entre eux, je ferai l'aîné. » Déjà auparavant, j'avais mentionné la péripétie survenue parce que Kirta avait oublié d'accomplir son vœu fait à la déesse Afiratu, ce qui avait bien sûr rendu furieuse la déesse. C'est la raison pour laquelle le roi Kirta était maintenant en danger de mort. Son sort était remis en question. Mais l'auditoire de l'épopée n'en sait rien encore, car Kirta invite les nobles de son royaume à une célébration cultuelle dans son palais. Ces nobles sont appelés les 70 taureaux et les 80 gazelles. Ce passage a fait couler beaucoup d'encre parce qu'une explication de cette désignation pour les nobles n'est pas facile. On a songé à des masques rituels ou quelque chose comme ça, mais ça, ce n'est pas du tout attesté à Ugarit. À mon avis, les 70 taureaux et les 80 gazelles sont les chefs des tribus de la steppe, cela veut dire les vaisseaux loyaux qui sont invités au palais royal. La responsable pour la préparation du banquet est sa femme, Uria. Elle convoque les nobles. Je cite le texte. « La jeune Uria écouta. Elle sacrifia le plus gros de ses animaux engraissés. Elle ouvrit une amphore de vin. La jeune Uria dit, « Pour manger et boire, je vous ai appelé, car Kirta, votre seigneur, célèbre un dabaru, c'est une offrande, mais aussi un banquet. » Fin de citation. Les nobles du royaume arrivent à la cour de Kirta et, pendant le banquet, ils apprennent que le roi est sérieusement malade. Ils pleurent sur le destin du roi et disent, je cite, « Au coucher du soleil, à l'ouest, Kirta s'en ira. Quand se cache le soleil, notre maître, Iyatsubu régnera sur nous. Sur nous, un jeune homme régnera. » Fin de citation. La colonne suivante raconte encore une fois le banquet à la cour de Kirta. Puis manque environ 40 lignes du reste de cette deuxième colonne, qui est la dernière de la deuxième tablette de l'épopée. La dernière tablette conservée de l'épopée commence avec la visite des enfants de Kirta chez leur père malade. Seulement Titmanatu, la fille cadette, viendra plus tard pour rendre visite à son père malade. Dans leur lamentation, les enfants disent, je cite, « Comment dira-t-on que Kirta est fils d'elle, progéniture du bienveillant et du saint ? Où est-ce que les dieux meurent ? La progéniture du bienveillant arrête de vivre. » Fin de citation. On voit ici la position spéciale du roi qui appartient tant à la sphère des dieux qu'à celle des hommes. Étroitement lié avec cette titulature royale et sous-entendue dans les lamentations des enfants, est l'espoir que les rois ne meurent pas comme le reste de l'humanité. Après ce passage, notre texte présente des lacunes. Néanmoins, on peut conjecturer que Kirta a accompli son vœu. En tout cas, il vient ensuite une deuxième intervention du dieu El en faveur du roi Kirta. Et ça, c'est bien intéressant de lire. Parce que maintenant, le dieu El parle dans l'assemblée des dieux. Les dieux se sont rassemblés dans son palais. Et El leur dit, je cite, « Qui parmi les dieux chassera la maladie, exorcisera le mal ?» Nul parmi les dieux ne lui répond. Pour la deuxième, la troisième fois, il interroge « Qui parmi les dieux chassera la maladie, exorcisera le mal ?» Nul parmi les dieux ne lui répond. Pour la quatrième, pour la cinquième fois, il interroge « Qui parmi les dieux chassera la maladie, exorcisera le mal ?» Nul parmi les dieux ne lui répond. Pour la sixième, la septième fois, il interroge « Qui parmi les dieux chassera la maladie, exorcisera le mal ?» Nul parmi les dieux ne lui répond. Ensuite, il crée une figurine d'argile, une figurine qu'il appelle Sha'atakatu, cela veut dire celle qui chasse, c'est-à-dire la maladie, celle qui chasse, la maladie de Ra Akatu, et il anime cette figurine, cette statuesse de ce démon. Et maintenant, elle continue, « Allez vous asseoir, mes fils, sur vos sièges, sur vos trônes princiers. Moi, je façonnerai et je créerai sûrement celle qui chasse la maladie, celle qui exorcise le mal. D'argile, sa main, il remplit. De la meilleure argile, sa main droite, il pétrit celle qui donne. » Et maintenant, des grandes lacunes de notre texte. Mais quand même, on peut voir, après quelques lignes, que Sha'atakatu est devenue vivante. Et elle lui dit encore, mort, peut-être le dieu de la mort, le dieu Motu, toi, mort, reste abattu, toi, Sha'atakatu, reste victorieuse. Ça, c'est la fin du discours de Dieu, elle. Et puis, notre texte nous raconte, et Sha'atakatu s'en va, dans la maison de Kirta, elle entre, dans le trouble, elle s'y rend, et dans l'angoisse, elle entre à l'intérieur. Elle vole au-dessus des villes, elle vole au-dessus des cités avec un bâton et aussi des lacunes dans notre texte. Et maintenant, elle vient chez Kirta et le texte dit, elle revient, elle le lave, Kirta, elle le lave de sa sueur, elle ouvre sa gorge à la nourriture, son gosier au repas. La mort, ou le mort, le dieu de la mort, le dieu Motu, est resté abattu. Sha'atakatu est restée victorieuse. Maintenant, Kirta est guéri de sa maladie et, comme est normal, il a grand faim. Kirta, le texte suivant, et Kirta, le héros, donne des ordres. Il élève sa voix et s'écrie, « Écoute, ô dame Uriya, égorge un agneau pour que je mange, une bête grasse pour que je me nourrisse. » Dame Uriya obéit, elle égorge un agneau et il mange. Une bête grasse et il se nourrit. Voici un jour et un second, Kirta reprend sa place. Il s'assied sur le trône royal, sur la chair, le siège de sa souveraineté. Mais son fils Yatsubu, le prince héritier, n'a pas envie de céder le trône à son père Kirta. Bien au contraire, il fait des reproches à son père. Je cite, « Tu as laissé tomber tes mains dans la déchéance, tu n'as pas jugé la cause de la veuve, ni tranché le cas de l'opprimé, ni chassé le voleur du peuple. De ta présence, tu n'as pas nourri l'orphelin, ni de ton épaule la veuve. Tu t'es attardé dans le lit de la souffrance, tu t'es vautré sur le divan de la maladie. Descends de ta royauté, que je règne, de ta souveraineté, que moi, je m'y assois. » Fin de citation. Là voilà quelques aspects de l'idéologie royale, l'obligation du roi d'établir la justice et le bon ordre et le soulagement des pauvres, des veuves et des orphelins. Cette idéologie royale trouve son expression classique dans l'épilogue du Code de Hammurabi, que vous connaissez aussi très très bien parce qu'il est au Louvre, c'est ici. Je cite la traduction de Béatrice André Salvini, c'est l'épilogue. Afin que le fort n'opprime pas le faible, pour que l'on donne justice à l'orphelin et à la veuve, j'ai écrit mes précieuses paroles sur ma stèle et je les dressé devant l'image de moi-même. Le rat de justice, en babylonien, ça veut dire char mécharim, dans Babylone, dans les agiles, pour promulguer la loi du pays, pour rendre les sentences du pays et pour apporter la justice à l'opprimé. Fin de citation. À en croire, son fils Yatsubu, le prince héritier, Kirta a négligé tout cela. En d'autres termes, il est plus digne du titre Char Mesharim, roi de justice. C'est pourquoi Kirta doit descendre du trône. Pour Kirta, ce jugement de son fils est inacceptable. Il maudit son fils et il en vient à souhaiter qu'il meure. Je cite, « Et Kirta, le noble, répond que au rang, un dieu de l'au-delà, que Oran brise, ô mon fils, que Oran brise ta tête, Astarte, nom de Baal, ton crâne. » De cette malédiction résultent deux conséquences. D'une part, Yatsubu, le prince héritier, n'est plus en mesure de se faire roi, et d'autre part, Kirta, le roi, se retrouve dans une situation bien difficile. Il doit régner sans avoir un héritier du trône qui assure la succession dynastique et qui s'occupe du culte des ancêtres royaux. Les spécialistes de l'épopée de Kirta ont souligné à juste titre que Kirta représente la figure du juste souffrant, comme elle est bien connue de plusieurs œuvres littéraires de l'Ancien Orient. Pour le statut de juste souffrant de Kirta, on peut citer le début de l'épopée où les dieux mots Tsitku et Yushru caractérisent le roi Kirta comme juste et droit. Ce binôme constitue un aspect fondamental de l'idéologie royale en Mésopotamie, où nous trouvons Kittum et Mesharum, et aussi au Levant, jusqu'à l'Ancien Testament, où nous trouvons Sidku ou Tzedek, ou Yushru ou Yashar au premier millénaire avant Jésus-Christ. Ce binôme montre clairement que Kirta, comme nous l'avons déjà souligné, est un char Mesharim. Mais pourquoi parle-t-on de Kirta comme d'un juste souffrant ? Il faut ici nommer quelques grandes œuvres de littérature proche orientale, comme le poème Ludlul Benemeki et la Théodicée babylonienne, toutes les deux de la Mésopotamie, et le livre de Job dans l'Ancien Testament au premier millénaire. À Ougarit, on a trouvé le soi-disant hymne à Marduk, qui était trouvé dans la bibliothèque du prêtre Ourit sur l'Acropole, une composition qui montre que le motif du juste souffrant était aussi connu à Ougarit. Selon ce hymne, le juste souffrant est sauvé de la mort par l'intervention du dieu Marduk. C'est pour cela que le juste souffrant fait la louange suivante de Marduk dans sa prière. Je cite la traduction de Daniel Arnaud. J'étais mort, c'est le juste souffrant qui parle dans la première personne. J'étais mort jusqu'à ce que Marduk m'eût relevé la tête et fait revivre le mort que j'étais. Jusqu'à ce que le Seigneur m'eût relevé la tête et fait revivre le mort que j'étais. Lui qui m'a arraché à la face de la mort, lui qui m'a fait remonter des enfers. Le juste souffrant subit des souffrances pendant quelque temps, mais après il sera sauvé par une intervention divine. Ça, c'est exactement la situation du roi Kirta, comme juste souffrant, car il est aussi sauvé de la mort par l'intervention du dieu. Déjà la dernière fois, j'avais mentionné du fait que la quatrième tablette de notre épopée manque toute complètement, si bien que la suite de l'histoire du roi Kirta et l'avenir de sa dynastie nous restent inconnus. Toutefois, à mon avis, il y a deux raisons de supposer une issue heureuse tant pour le roi Kirta que pour sa dynastie. Une solution possible se base sur la fille Titmanatu. C'est à elle que se réfère la promesse de dieu El de la rendre l'aînée de tous les fils et les filles de Kirta. Grâce à Titmanatu, la dynastie de Kirta pourrait être sauvée de sa destruction totale et elle aussi pourrait s'occuper du culte des ancêtres royaux. N'oublions pas que lors des noces de Kirta et de Uraya, le dieu El avait promis à Kirta un destin heureux parmi les rois divinisés, les Rafiuma. Toutefois, j'avoue franchement le caractère spéculatif de ces réflexions et j'espère qu'un jour on va trouver aussi la dernière tablette de l'épopée pour montrer si mes conclusions étaient fausses ou non. Je vous remercie cordialement de votre attention et nous avons encore quelques minutes pour des questions ou pour des remarques.